Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Voilà, donc très très heureux que tu acceptes l'interview avec nous concernant donc la sortie de ton nouveau compact. Alors si tu permets Nicolas, je vais lire quelques lignes marquées par Pascal Sauvran sur toi, sur le dictionnaire de la chanson française. C'est un dictionnaire qui est sorti en 88. Alors Nicolas Perrac, auteur-compositeur-interprète. Né de famille de médecins, Nicolas ne sera pas docteur. Il commencera quand même ses études de médecine pour faire plaisir aux siens. En 1963, le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais fait, une guitare, va matérialiser ses rêves d'adolescent. Sa mère, chef de service en psychologie, est en poste à Abidjan. Il accompagne, mais s'ennuie, à partir de la France et de ses copains. De ces quelques années monotones, naissent 350 chansons. Autant de matériel, c'est un capital qu'il faut utiliser. Le porte-à-porte des maisons de disques commence. Pathé Marconi l'engage et propose de lui faire enregistrer un album de 33 tours qui connaît d'emblée un très grand succès. En 1975, Soufar Erwefum, je lis très très mal, excuse-moi, et puis un an plus tard, avec Et mon père, Nicolas Perrac obtient ses galons de vedette. À son actif déjà, un passage en tête d'affiche au Théâtre de la Ville, une tournée avec Serge Lama et l'américaine du spectacle de Dalida à l'Olympia en janvier 1977. Voilà quelques mots sur Nicolas Perrac que j'ai le plaisir d'avoir en direct sur Radio Passion en ce vendredi 20 janvier. Alors Nicolas, merci encore une fois d'avoir accepté cette interview avec nous. Et bien sûr, ta carrière, alors comment elle a démarré, à part les quelques lignes que je viens de lire, qui a été écrite par Pascal Sauvran?
Bah écoute, hein, tu sais, c'est vraiment les hasards des rencontres, c'est vraiment le fait d'avoir un jour croisé le frère de Michel Legrand dans les bureaux d'une maison de disques. Patrick Legrand m'a amené chez Pathé Marconi, parce que Pathé Marconi cherchait des, non pas des chanteurs, mais des chansons pour des gens qui enregistraient des disques. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Philippe Nico, qui était comédien, qui voulait une chanson pour la chanter en duo avec quelqu'un. On lui a fait écouter des chansons. Il y a une chanson qu'il a eu envie d'enregistrer en duo. Il a pensé à Marie Laforêt. Marie Laforêt a écouté la chanson qui s'appelait Tant qu'il y aura des chevaux. Elle a décidé de la chanter toute seule. C'est la première chanson que j'ai pu écrire et qui a été enregistrée par quelqu'un de très connu et qui est devenue un succès grâce à Marie. Et puis un an plus tard, j'ai signé donc chez Pathé Marconi pour faire 2,45 tours. Les 2,45 tours n'ont pas du tout marché. Et puis après, le patron des éditions Pathé Marconi, et non pas de la maison de disques Pathé Marconi, qui s'appelait Philippe Constantin, et qui depuis d'ailleurs a donné son nom à un prix qui est un prix décerné tous les ans pour la nouvelle chanson française ou pour la relève de la chanson française. Donc Philippe Constantin, à l'époque, a pensé qu'il fallait pas me faire des 45 tours, mais plutôt un album. Et sur ce premier album qu'on a fait en 74, qui est sorti en 75, il y avait une chanson qui s'appelait So Far Away From LA. Et puis cette chanson a démarré au mois de mai 75. Et puis petit à petit, c'est devenu une chanson qui est beaucoup passée à la radio. Et puis en novembre de la même année, est sortie une autre chanson qui s'appelait Mon Père. Et bon, là, ça a été énorme, puisque ça a été énormément de disques vendus, et puis les gens ont commencé à pouvoir mettre un visage sur mon nom, alors qu'avant ils entendaient le nom Nicolas Perrac comme ça, mais au moment des Mon Père, ils ont bien fait la liaison entre le visage, le nom, les chansons, et voilà, j'ai commencé à être connu en 75 comme ça.
Alors, est-ce que il y a une raison qui explique que telle ou telle chanson, ça accroche et l'autre pas du tout, Nicolas, à ton avis? Qu'est-ce qui, à ton avis, fait que l'auditeur ou celui qui vient au spectacle est accroché pour telle ou telle chanson?
Mais je crois que d'abord, une chanson, on l'entend avant de l'écouter. Je pense que moi, pour moi, le succès d'une chanson, c'est d'abord lié à la mélodie. C'est d'abord une mélodie qu'on entend. On est dans sa voiture, on est dans sa cuisine, on est n'importe où et on entend quelque chose. Et le fait d'entendre une mélodie sympa ou qu'on peut mémoriser facilement donne envie d'écouter après la chanson. Alors c'est vrai qu'il y a des chansons débiles qui deviennent des tubes parce que les mélodies sont effectivement sympas. Et sur ces mélodies sympas, il y a des gens qui écrivent des conneries. Donc le fait de faire un tube ne veut pas dire que c'est forcément une bonne chanson en tant que chanson bien écrite. Mais je pense que le départ d'une chanson qui éventuellement va avoir du succès, c'est une mélodie qui est très sympa et que les gens peuvent avoir envie de fredonner et qui va leur donner envie de découvrir le texte de la chanson après.
Et toi, Nicolas Perrac, qui est auteur, compositeur, interprète, tu commences d'abord avec la mélodie avant de mettre les paroles dessus ?
Toujours, sauf à l'époque où j'étais à la fac de médecine et où j'écrivais beaucoup pendant les cours. Et pendant les cours, c'est sûr que c'est plus facile de faire des textes que de faire des musiques parce que je pouvais pas me balader avec une guitare dans un amphithéâtre. Donc j'écrivais surtout des textes avant, mais maintenant depuis des années et des années, j'ai tendance à faire systématiquement des musiques, des tas de musiques, et puis après je fais le tri, j'écoute les choses qui sont vraiment sympas, que j'ai envie de chanter, que j'ai envie de développer, et puis dans cet énorme paquet de musique ou de début de mélodie, etc., je choisis, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de musique que je trouve sympa pour moi en tout cas, et puis je commence à éventuellement me poser la question de mettre des textes et de faire en sorte que les paroles soient à la hauteur de la musique, parce que j'ai pas envie de sombrer dans la facilité, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie de bâcler les choses, donc ça prend du temps de faire des textes qui sont je l'espère plutôt bien écrit plutôt que mal écrit, donc voilà, mais ça part toujours en tout cas d'une mélodie, à part quelques exceptions où c'est vrai qu'il y a de temps en temps une chanson dont les paroles et la musique arrivent quasiment ensemble comme une évidence, mais en général c'est toujours par la musique que je commence. Ouais.
Alors, bientôt 40 ans de carrière, puisque les années 70, nous sommes en 2012.
Mon pauvre monsieur.
Non mais c'est beau quand même. C'est vrai que c'est pas.
C'est beau, c'est-à-dire que je pense que, écoute, je vais être très franc. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens dont je fais éventuellement partie qui ont des comme ça des non pas des carrières mais des parcours sur la longueur. Et je pense qu'il y a malheureusement des gens aussi entre les années 80 et nos jours qui n'ont pas fait de carrière, qui ont eu des tubes énormes et qui ont disparu corps et bien sans avoir de carrière, donc c'est ou qui n'ont pas eu de longévité. Moi, j'ai eu la chance avec d'autres personnes de ma génération ou de générations avant de durer. Peut-être que justement, c'est parce que on sait faire un certain nombre de choses, voire des mélodies, voire des textes. Peut-être qu'on a des personnalités assez affirmées, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que on est là depuis. Enfin, moi, je suis là depuis maintenant. Depuis 75, ça fait un certain nombre d'années. Et je suis pas le seul. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'est les gens de ma génération ou même des générations d'un peu avant qui ont les faveurs du public, mais c'est très bizarre parce que on n'a jamais disparu, en fait on a toujours été là, on nous a par moments moins vus, moins entendus, mais on a toujours été là en permanence, en continu depuis les départs de nos aventures musicales, donc c'est assez surprenant finalement.
C'est ce que la question que j'ai à te poser. Il y a eu un petit éclipse à un moment donné. On te voyait moins, on t'entendait moins. Peut-être pas sur des radios comme la nôtre, mais sur d'autres radios, on va dire plus importantes entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui fait donc? Est-ce que c'est les programmateurs qui boudent le chanteur ou c'est?
Mais c'est tout à la fois. C'est surtout le fait que moi, je me considère pas comme un chanteur. Je me considère comme un auteur-compositeur. Interprète, c'est vrai, mais en même temps je suis passionné par l'écriture, et pour moi l'écriture de chansons c'est une chose, mais c'est aussi important d'écrire des romans. J'en ai déjà écrit 3 qui ont été publiés. C'est aussi important de faire des photos, c'est aussi important demain de faire un film comme réalisateur, C'est l'écriture qui me passionne. Alors c'est vrai qu'en plus je suis parti 15 ans à Montréal et que quand t'es pas là, les absents ont plutôt quand même toujours tort. Donc même si tu fais des albums en France, tu n'es pas là et c'est beaucoup plus facile de faire venir dans des émissions de radio ou des émissions de télé des gens qui sont à Paris ou qui sont pas loin. Moi quand je suis à Montréal, forcément c'est tout de suite prendre l'avion, etc. Donc c'est plus compliqué. Et puis je pense pas que dans les parcours on puisse parler de bleu, de ciel bleu en permanence. Je connais pas de gens qui existent depuis les années 70, disons, et qui sont toujours là aujourd'hui, qui n'aient pas eu à un moment donné du succès, à un autre moment moins de succès, à un autre moment une présence, après une absence. Mais c'est la vie qui est comme ça. Heureusement que c'est comme ça, parce que c'est dans les moments où on nous voit pas qu'on se ressource, qu'on écrit, qu'on fait des rencontres, qu'on croise des gens, qu'on vit. Je veux dire, moi, je préférerais toujours être la personne qui amène ma fille à l'école le matin que de me montrer à la télé pour quelque raison que ce soit, si j'ai pas des vraies bonnes raisons. Quand je sors un album ou un coffret, comme c'est le cas en ce moment, c'est normal qu'on me voit, c'est normal qu'on m'entende, parce que j'ai envie de partager ça avec les gens et que c'est hyper important d'être sur scène et d'avoir une présence médiatique. Mais quand il n'y a pas ça, pourquoi est-ce que je vais aller faire des émissions à tout prix, me montrer alors que j'ai rien à partager? C'est complètement ridicule. Les gens qui pensent que la vie ne passe que par la médiatisation, je pense qu'ils ont tort. Moi, j'aime bien être médiatisé au moment où j'ai des raisons de l'être, pas si j'en ai pas.
Alors, tes 15 ans au Canada, comment se sont déroulés, Nicolas ?
Ben, ça s'est déroulé d'une façon tout à fait simple. J'étais loin de...
Ça n'a pas été compliqué pour toi, là-bas, au Canada ?
Non, c'était pas compliqué. On était très bien. On avait un très beau cadre de vie. Montréal est une ville très agréable. Ça m'a permis beaucoup d'écrire. J'ai développé des choses que je n'avais jamais faites avant. J'ai été chroniqueur pour des émissions de cinéma avec la Belgique, donc je faisais des critiques de films, des chroniques de films, j'ai fait des émissions spéciales, des semaines spéciales sur des artistes français, anglais, américains, toujours pour des radios en Belgique. J'ai découvert l'univers de la radio à travers ces années à Montréal, et puis j'ai écrit des romans, et puis j'ai fait des albums qui sont sortis en France aussi. J'ai fait beaucoup de choses, et puis une chose magnifique, on est parti en 2004 chercher notre fille adoptive en Chine, donc toutes les choses qu'on a pu faire à Montréal ont été marquées par cette cerise sur le gâteau qui a été l'adoption d'une petite fille. Donc tu sais, la vie c'est hyper important. Je pense que si je suis content d'être rentré en France, et si je suis bien dans ma tête et bien dans ma peau aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces années où à Montréal il s'est passé des choses un petit peu différentes qui ont fait prendre conscience de l'importance de la vie de tous les jours. Moi j'ai la chance, le privilège d'écrire des chansons comme des gens font du pain ou font d'autres choses. Je me prends pas au sérieux parce que je fais des chansons. Je pense que j'ai une vie normale. Je veux dire, j'ai la chance inouïe de pouvoir simplement vivre mon rêve et vivre de mon rêve aussi. Donc ça c'est fascinant, mais de là à se prendre au sérieux, non. Donc je vis une vie tout à fait normale.
C'est beau de pouvoir vivre de sa passion, Nicolas.
Ah, c'est génial. Se réveiller le matin et se dire... j'ai envie d'écrire, je vais pouvoir écrire et éventuellement ça va intéresser les gens, c'est absolument formidable, c'est clair, oui, bien sûr.
On parle souvent bien sûr de ton grand succès et Mon Père, mais à côté de ça j'ai envie de parler de ces chansons que j'apprécie énormément, que ce soit Mississippi River, que ce soit J'avais un fils, tu en as fait de très très belles et c'est toujours pareil, il y a toujours une chanson qui s'accroche à un chanteur parce que c'est son grand succès.
Oui, mais enfin là, tu vois, on peut pas résumer 18 albums à 3 chansons. C'est vrai que les gens aiment bien dire que je suis celui qui a fait So Far Away, Mon Père, Je pars, etc. Mais il y a 18 albums, ça veut dire, si on compte 10 chansons par album, ça veut dire 180 chansons. On peut pas résumer le parcours de quelqu'un à travers 35 ans d'existence sur 3 chansons. C'est un vrai manque de curiosité. Mais c'est une vraie injustice. Je veux dire, c'est il suffit d'aller voir les concerts que je peux faire pour se rendre compte que dans le concert, il y a deux heures de chansons. Dans ces deux heures, il y a peut-être quatre chansons très connues. Le reste, c'est des chansons que les gens découvrent et ils entrent dans un univers parce que 18 albums, c'est tout un univers. Bien sûr qu'il y a des chansons qui ont été très médiatisées, mais je pense que c'est pas ces chansons-là forcément les plus importantes.
Alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Passion en ce vendredi 20 janvier. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Nicolas Perrac. Il est donc 11h16. Alors, Nicolas, une question un petit peu difficile, peut-être pas, je sais pas. Si tu avais à choisir parmi tous les bébés que tu as créés à travers toutes ces chansons que tu as écrites, si tu avais à choisir trois titres qui t'ont, toi, marqué, pas spécialement qui ont marqué le public, mais toi personnellement.
Bah, en ce moment, sur le coffret qui vient de sortir et qui s'intitule du Golden Gate à Monterey, donc qui comporte 10 chansons entre 75 et 2009 réenregistrées en direct comme si on était sur scène, plus 14 nouvelles chansons enregistrées de la même façon. Sur ce coffret là, il y a une chanson à laquelle je tiens particulièrement. Il y en a plein, il y en a 24 auxquelles je tiens, mais s'il y en a une que je devais choisir, je prendrais une chanson qui s'appelle Anna, parce que j'ai mis 40 ans à l'écrire, et que quand on met 40 ans pour écrire une chanson sur Anne Frank, en fait, c'est pas rien. C'est-à-dire que j'ai les premières maquettes de cette chanson, qui datent d'Abidjan, de l'époque où je vivais en Afrique, en 71. Les premières maquettes, les premières ébauches de cette chanson sur Anne Frank datent de cette époque-là. Donc il y a cette chanson-là, Anna. Il y a une autre chanson sur cet album Monterey qui s'appelle « Je dirais oui » parce que elle résume mon parcours. Elle dit que toutes les choses qu'on peut avoir vécues, même si par moments elles n'étaient pas drôles, toutes ces choses-là valaient la peine pour arriver à aujourd'hui parce que ce parcours était et continue à être passionnant. Et puis si je devais en choisir une troisième, je pense que je choisirais évidemment So Far Away From LA, parce que sans So Far Away From LA, il n'y aurait jamais eu tous les autres titres de ces 18 albums. Donc on va prendre la toute première et puis ces deux qui sont sur le dernier album Monterey.
Alors, qu'est-ce qui fait que, justement, ce que tu as écrit sur Anne Frank reste dans les tiroirs pendant une trentaine d'années ? Qu'est-ce qui t'empêchait de sortir plus tôt ?
Parce que la chanson n'était pas faite. Quand on écrit une chanson sur Anne Frank qui parle de choses extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles, extrêmement précises, qui touchent à l'Holocauste, et que surtout on a eu avant soi quelqu'un comme Louis Chédid qui a fait cette chanson admirable qui s'appelle Anne Masseran. C'est très compliqué, quoi. Je veux dire, il faut être très 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 délicat. Il faut prendre son temps. Il faut choisir ses mots. Il faut essayer d'écrire simplement, sans en rajouter des kilos, etc. La chanson n'était pas prête. Elle était en gestation. Elle était là. Elle attendait d'exister vraiment. Elle a mis 40 ans. Même, elle a pas mis 30 ans. Elle a mis 40 ans à s'ouvrir, à s'écrire tout à fait simplement. Elle est devenue maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu une chanson évidente. Mais pendant toutes ces années, j'y ai pensé, je suis passé à côté. J'ai écrit d'autres choses qui parlaient aussi de droits de l'homme et d'intolérance et de choses qui me tiennent à cœur, comme dans les chansons Ne me parlez pas de couleur ou From Argentina to South Africa, peu importe, mais cette chanson sur Anne Frank, elle n'était pas en état d'être enregistrée, donc il fallait attendre qu'elle soit vraiment terminée, qu'elle soit vraiment comme j'imaginais qu'il fallait qu'elle soit, et voilà, ça a pris 40 ans.
Il y en a une autre que j'aime bien sur ton coffret, c'est Fanny. Elle est aussi très belle.
Ben Fanny, c'est la chanson qui ouvre l'album Monterey. Et ouais, c'est en fait une chanson sur quelqu'un qui essaye de consoler une fille ou une jeune femme en lui expliquant que c'est pas forcément parce que son fiancé ou son petit ami est parti ou l'a laissé que la vie s'arrête et que belle comme elle est et que habitée par tout ce qu'elle a de beau, faut pas qu'elle se laisse tomber, faut pas qu'elle se, faut pas, il faut qu'elle se repre- prennent en main. C'est une chanson d'espoir, c'est une chanson
d'encouragement
très,
aussi.
Très très forte au niveau de, du message vers quelqu'un qui ne doit pas se laisser tomber. C'est vraiment une chanson qui raconte comment on peut essayer de prendre quelqu'un par la main au moment où il est déprimé. Ouais.
Est-ce que parmi tes confrères de chanteurs des années 70, il y en a quelques-uns que tu fréquentes, Nicolas ?
Mais tu sais, mes confrères, le seul que je fréquentais vraiment, c'était Michel Berger. On était vraiment proches, on était vraiment amis. Et puis sa disparition en 92, ça a été un coup de tonnerre pour moi. Ça a été quelque chose d'épouvantable. J'avais encore beaucoup de choses à lui dire. Il avait sûrement beaucoup de choses à m'apprendre. Voilà, je croise de temps en temps Gérard Lenormand parce que Gérard est celui qui m'a tendu la main en 75 en m'invitant à l'Olympia au moment où j'avais écrit une chanson qui s'intitule Ailleurs et qu'il a chanté à l'Olympia, et après il m'a permis de chanter So Far Away, puis et mon père dans son spectacle à l'Olympia en 75. Donc c'est vraiment le seul que j'ai croisé récemment. Là on s'est retrouvé en décembre et en novembre sur beaucoup d'émissions de télévision parce qu'on était tous les deux assez sollicités, mais sinon j'en croise pas beaucoup. J'ai croisé de temps en temps Laurent Voulzy, que j'adore. Il y a beaucoup de gens que j'aime, moi, hein. Vous savez, sauf que je ne fréquente pas du tout les milieux je dirais à la mode, les milieux où il faut se montrer, et que je ne suis à Paris que lorsque j'ai des émissions à faire, et que donc ces gens-là je ne peux les croiser que lors des émissions. Je ne vais pas dans les endroits dans lesquels il faudrait aller, et comme ces gens-là font un peu partie de la même génération que moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie de se galvauder, ni de se montrer, ni de faire parler de soi à tout prix. J'ai croisé Cabrel une fois, qui m'a pris en stop dans Paris parce que j'attendais un taxi. Il
incroyable.
Est passé avec sa voiture, il s'est arrêté, il m'a amené quelque part. Donc ces gens-là, je les aime beaucoup, mais c'est vraiment pas des gens qui se montrent énormément. Je pense que c'est des gens discrets, et moi j'apprécie ça beaucoup.
Donc on peut dire aussi que demain, on aura le plaisir de te voir sur le petit écran, sur les deux chaînes en plus.
Ouais, demain c'est les deux chaînes en même temps. Alors c'est quand même c'est totalement débile parce que l'émission de TF1, elle a été enregistrée au mois de septembre. Elle devait passer en décembre et elle passe demain. Et elle passe en même temps que le grand cabaret de Patrick, donc qui a été enregistré il y a un mois et demi, et qui passe donc. C'est vrai que
c'est dommage.
Je vais être dans le premier quart d'heure de l'émission de TF1, et je vais être dans la dernière demi-heure de l'émission de France 2, donc c'est assez rigolo, mais en même temps, ça va permettre d'annoncer mon concert du lundi 30 à l'Européen, quoi que ça soit, c'est complet, donc ça va rien changer, on va pas pouvoir rajouter des chaises, mais bon, voilà.
C'est une bonne nouvelle quand même. Hein, ça, c'est une très bonne nouvelle, le fait que ce soit complet par les temps qui courent.
Mais c'est une excellentissime nouvelle. Mais en même temps, ce que je trouve rigolo, c'est qu'il y a deux grosses émissions de télé. Il va y avoir peut-être entre les deux émissions 10 millions de personnes qui vont regarder la télé demain. Et si jamais il y a des gens qui veulent aller à l'Européen parce que tout d'un coup ils découvrent demain soir ou sur la 1 ou sur la 2 qu'il y a un concert le lundi 30, et ben ils pourront pas y aller parce qu'il n'y a plus de place, donc il faudra qu'ils se rabattent sur d'autres concerts à venir. Mais comme l'année 2012 va être basée sur les concerts, puisqu'on a
donc je ne sais pas, il y a un petit problème technique. Nicolas, tu es là? Allô? Allô, allô? Allô? Nicolas? Donc apparemment il y a eu un problème technique téléphonique, alors mille excuses, j'essaierai de